Là, je vais vous parler d'autre chose. Vous allez dire, c'est peut-être loin, mais je pense que c'est tout proche. Hier, il y a eu un référendum en Russie. Et en Russie, la question était, est-ce que vous permettez une modification constitutionnelle à la constitution russe pour permettre au président, Poutine en l'occurrence, de pouvoir être en place, s'il le souhaite, avoir l'option de pouvoir rester là jusqu'en 2036? C'est encore 16 ans, ça. Puis déjà, il alterne avec Medvedev. Alors, on s'entend que c'est comme « permettez-moi d'être votre dictateur pour encore 16 ans ». Comment une population qui a vécu le régime russe depuis des années en arrive à accorder un tel mandat et un tel passe-droit? Loïc Tassé est politologue et il va nous expliquer cette affaire-là. Bonjour, Loïc Tassé.
Bonjour.
Ça me fait plaisir de pouvoir jaser avec vous. C'est la première fois.
Ah ben, moi aussi, ça me fait plaisir. Alors oui, effectivement, ça a été un « da » massif, oui, on dit les Russes, à 78%.
Comment on en arrive, à part de donner l'argument facile de dire ça, c'était pipé d'avance, c'était organisé, oui, contrôlé, comment une population, dans quelque pourcentage que ce soit, les Soviétiques, les Russes en sont arrivés à cette décision?
Il y a plusieurs raisons, hein, mais je dirais que c'est vrai, les dés ont été pipés, puis d'après les sondages, on avait à peu près 44% de la population pour et 32% contre. Donc, on aurait dû plus se trouver aux alentours de 50%. Probablement pour le oui, mais bon. La raison, c'est que les gens aiment encore beaucoup Vladimir Poutine. D'abord, il y a 59% de la population qui aime Vladimir Poutine, qui est en faveur des politiques de Vladimir Poutine. Et ça pour deux raisons. D'abord, parce que Vladimir Poutine, par exemple, a redonné aux Russes la Crimée. Et ça, les Russes en sont très, très heureux, en général. Et d'autre part, parce que Vladimir Poutine a sorti la Russie de la dèche en 2001. En 2001, la Russie était un pays diminué qui allait très mal. Et Vladimir Poutine a décidé de nationaliser des grandes entreprises qui étaient en fait entre les mains de gens très peu scrupuleux, puis ça s'en allait vers des propriétés étrangères. Et grâce à cette nationalisation-là, il a été capable de reconstruire son armée. Autre sentiment de fierté pour les Russes, et il a été capable de rehausser le niveau de la population en général.
Donc, Loïc, c'est lui qui a peut-être inventé, et on lui a emprunté, « Make Russia Great Again
». Oui, c'est une belle expression. Je me demande bien qui aurait pu lui emprunter
ça. J'ai aucune idée.
Mais effectivement, et il a réussi. La Russie, c'est loin d'être le paradis, c'est loin d'être la puissance qu'elle était au temps de l'Union soviétique, mais c'est plus une Russie diminuée. C'est une Russie qui compte, et d'ailleurs, on le voit au niveau international. On le voit avec la Syrie, on le voit avec la Turquie, on le voit avec l'Europe. La Russie compte de plus en plus au niveau international. Tout ça parce que, justement, Poutine est parvenu à redonner à la Russie cette fierté, cette richesse, à reconstruire son armée. Le problème, c'est qu'il a fait assassiner tous ses opposants, ou à peu près. Alors ça pose vraiment un sérieux problème. Les critiques dans les journaux n'osent plus le critiquer parce qu'il a aussi fait assassiner des journalistes. Alors forcément, la population a une très bonne opinion de Vladimir Poutine en général, parce qu'il n'y a pas non plus d'opposition critique contre Vladimir Poutine, d'opposition forte contre lui.
Je m'étais fait un genre d'hypothèse dans ma tête, et j'aimerais que vous regardiez mon hypothèse.
Oui, oui.
Quand est arrivée l'ouverture de l'Union soviétique, la perestroïka, etc., 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 il y avait là la possibilité pour une population plus âgée de résister au changement parce qu'ils disent, écoute, on est bien, on connaît la pression dans laquelle on vit depuis des années, des décennies, des décennies, des décennies. Et il y avait la jeunesse qui disait, oh, il y a une opportunité là, peut-être un avenir plus prometteur qui va me faire voir le monde différemment et des possibilités pour moi. Ce qui s'est produit, c'est ni un ni l'autre, dans le fond. Les gens sont restés dans une structure très rigide avec un gars comme Poutine. Et en même temps, l'avenir ne s'est pas tellement ouvert pour les jeunes, mais il y a eu un enrichissement de quelques oligarques et pas pour les autres. De sorte que...
Je dirais pas ça, non. Je dirais que les oligarques se sont enrichis, puis il en reste encore.
Oui.
Il en reste en particulier autour de Poutine. Il y a des gens qui pensent que Poutine a des milliards de dollars dans son compte en banque. Mais c'est ça que je disais. Non, la population s'est quand même enrichie en général. Plus que... Ça a été très, très dur, la chute de l'Union soviétique.
Oui.
Et les Américains n'ont pas aidé l'Union soviétique soviétique. Il n'y a pas eu de plan Marshall pour l'Union soviétique, enfin, l'ex-Union soviétique, ce qui, à mon avis, était une erreur des États-Unis.
Le plan Marshall étant, pour les gens qui suivent l'après-guerre 39-45, oui, la reprise, la reconstruction de l'Europe.
Oui, c'est ça. Les Américains ont ouvert des lignes de crédit pour les pays européens et ça a permis d'enrichir beaucoup les Américains, mais aussi de redémarrer toute l'économie des pays européens. On n'a pas eu de ça pour l'Union soviétique, enfin l'ex-Union soviétique, malheureusement. Et donc, l'Union soviétique a été extrêmement déçue par l'attitude des Occidentaux en général, mais des États-Unis en particulier. Et donc, l'Union soviétique va tranquille, qui était véritablement pro-occidentale au moment de la quand l'Union soviétique est tombée, ben, va devenir tranquillement de plus en plus méfiante face à l'Occident et va se rapprocher de plus en plus de la Chine. Si bien qu'en ce moment, la Chine et la Russie sont de très grands alliés contre les États-Unis et contre une partie de l'Occident aussi. Mais ça, c'est notre faute. C'est bien notre faute.
Oui. Alors, Luc, il y a une chose qui vient de sortir dans l'actualité au cours des dernières heures. C'est la possibilité que la Russie et Poutine aient financé des gens en Afghanistan pour tirer des soldats américains. Et que les États-Unis, le président dit ne pas en avoir été au courant. C'est une pierre dans le soulier de Trump dans sa course vers une réélection.
Oui, c'est pas certain que ce soit. C'est parce qu'il y a une source qui dit ça dans les services de renseignement.
Ouais.
Puis on ne sait pas exactement ce que c'est. Donc, moi, je dirais, faisons attention avec cette information-là. On est en période électorale aussi aux États-Unis, mais ça fait très, très mal à Trump parce que ça donne l'impression, mais on le sait, que Trump lit pas ses rapports, etc.,
ouais,
puis il les lit pas, ou qu'il se fout un peu de ce qui se produit avec la Russie. Et c'est vrai, c'est pas un grand diplomate international, Donald Trump.
C'est pas un diplomate du tout, même local.
En effet, c'est pas un diplomate du tout. C'est bien, effectivement. Mais si on regarde derrière tout ça, est-ce que c'est le cas? Moi, ça m'apparaît un peu gros comme histoire, parce que comment est-ce, c'est des talibans qui auraient dit ça, ils ont trouvé de l'argent qui serait venu, qui aurait transité de Moscou, mais est-ce que les talibans ont avoué ça sous la torture? Dans quelles conditions est-ce que ça a été avoué?
Ouais.
Moi, disons, je garde un petit peu de recul face à ça, mais pour Trump, c'est désastreux, c'est pas bon non plus pour la perception de la Russie aux États-Unis, c'est certain, mais il y a tout un jeu très fort qui se joue contre la Russie en ce moment, parce qu'on veut aussi empêcher la Russie de vendre son pétrole et son gaz dans le monde entier, en particulier aux Européens, parce que qui veut vendre du pétrole et surtout du gaz liquéfié à l'Europe? Ben, c'est les États-Unis qui ont des surplus de gaz liquéfié maintenant.
Qui préféreraient avoir le marché plutôt que de le laisser aux
Russes. Bien sûr, que de le laisser à la Russie. Mm-hmm. Il y a ça aussi qui joue en arrière-plan derrière.
Loïc, est-ce que nous sommes petits dans tous ces jeux de coulisses? Hein? On est vraiment au bout de la chaîne, nous, là.
Le Canada?
Les citoyens, les individus.
Ah ben oui.
Dans son salon là aujourd'hui, là.
Non, ça, c'est certain qu'il n'y a pas grand-chose. Encore que c'est encore drôle, je pense que quand on connaît l'information, quand on sait ce qui se passe, puis qu'on se tient au courant, à ce moment-là, ben, ça fait des élus qui, eux aussi, se tiennent au courant, qui savent ce qui se passe,
ouais,
et on peut influencer sur ce. Malheureusement, Justin Trudeau, par exemple, ne donne pas tout à fait l'impression d'être, lui non plus, un grand diplomate international.
Hein. Non,
le Canada, qui est à peu près la 20e puissance au monde sur 193 pays, ne joue pas le rôle qu'il devrait jouer internationalement en ce moment. Mais on pourrait, à travers nos gouvernements, et le Québec aussi, on pourrait jouer un rôle plus grand, on pourrait avoir notre mot à dire, et on peut faire pression là-dessus.
Il y a Brian Mulroney aujourd'hui qui est sorti disant il faut que le Canada agisse de façon plus ferme dans sa politique étrangère avec la Chine.
Oui, il faut qu'il revoie complètement ses rapports. Et il a été assez loin et il avait tout à fait raison. Ce qui se passe avec la Chine, c'est plus la Chine d'avant. Là, on est sous la Chine de Xi Jinping et la Chine de Xi Jinping, c'est une Chine qui commence drôlement à ressembler à la Chine de Mao. Et ça, c'est pas la Chine de Deng Xiaoping qu'on avait connue. Donc effectivement, moi je pense qu'il a totalement raison là-dessus. Il faut qu'on revoie nos relations avec la Chine en profondeur, parce qu'on est face à un gouvernement de plus en plus dictatorial, de plus en plus dur, de plus en plus cruel, je vais employer ce terme,
ouais. qui est Mais le avec, gouvernement avec l'hégémonie qui semble se mettre en place de la Chine de plus en plus dans les guerres commerciales, etc., etc., est-ce que nous avons les moyens de nos ambitions de dire hey, « hey, hey, la Chine, là, restez tranquille, nous autres, on change de relation avec vous. »
C'est sûr qu'on ne peut pas procéder de la même façon que les États-Unis
non.
ou qu'une grande puissance comme la France ou la Grande-Bretagne. On est obligé d'agir avec beaucoup plus de doigté. Mais, en bout de ligne, il n'en demeure pas moins qu'on a des problèmes graves avec la Chine et que si on ne se tient pas debout, la Chine va nous mener par le bout du nez. Et ça, on ne peut pas laisser faire ça non plus. Donc, il faut dire, bon, écoutez, d'accord, on voit bien les problèmes qu'il y a avec la Chine. Donc, il faut réorienter notre politique extérieure. On ne peut pas le faire du jour au lendemain, mais on est capable de le faire sur plusieurs années.
De laisser comprendre le message qu'on veut passer et comment on veut se Absolument. Situer par rapport à eux. Merci beaucoup, Loïc Tassé. Merci
plaisir. Bien.
Très enrichissant. Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir. On s'arrête pour une pause. Je reviens avec une affaire. Écoute, on va reparler de ça, mais... Mon Dieu, que le monde est mené par le mauvais bout. Encore des abus sexuels. On s'arrête.